Le petit homme rouge par François de Lyon. C'est le soir même des terribles journées d'octobre que la reine et moi, son humble servante, nous vîmes dans un des couloirs du vieux Louvre cette affreuse figure dont aujourd'hui même encore, à l'heure lointaine où j'écris ces lignes, je ne puis oublier les traits ni malgré tout méconnaître la réalité. Je raconterai d'autre part notre voyage de Versailles à Paris dans un torrent de têtes hideuses qui semblait porter nos carrosses comme l'eau d'un fleuve une barque périlleuse. Têtes sanglantes et têtes sinistres, je vous vois danser autour de nous, les unes au bout d'une pique avec vos prunelles rigides et vos muscles tordus, les autres au niveau de nos visages, les yeux hagards et les bouches hurlant des injures. L'horrible jour, froid, pluvieux, sombre. Le soir même, il fallut s'occuper de se loger dans les appartements des Tuileries, qui n'avaient pas été chauffés depuis l'enfance de Louis XV. Tout y était dans un désordre sinistre. Le pauvre dauphin, habitué à son palais de Versailles, se pressait contre sa mère, effrayé par ses murs délabrés. « Tout ici est bien laid, maman, » murmurait-il. Et Marie-Antoinette lui répondait, « Louis XIV logeait ici, mon fils. » Nous ne devons pas être plus difficiles que lui. » Dès que ses enfants furent endormis dans des lits préparés à la hâte, la reine m'appela et me dit « Venez avec moi, comtesse. Le roi est couché, mais pour moi je ne saurais dormir sans avoir parcouru ses appartements et m'être assuré que je n'ai pas à redouter le fer d'un assassin veillant dans ses ténèbres contre les jours de sa majesté. » Je pris un bougeoir. C'était le bougeoir du coucher dans la chambre du roi à Versailles, le long bougeoir de vermeil à deux bougies, si ardemment ambitionné par les courtisans, pour qui le tenir était un grand honneur. On l'avait emporté malgré le désarroi. Je pris ce bougeoir et je marchai devant la reine, éclairant notre ronde nocturne à travers le palais sombre. Les 100 Suisses étaient campés dans la vaste galerie du centre, qui fut depuis la salle des maréchaux. De ce côté, il n'y avait rien à craindre. Nous tournâmes dans un appartement qui donnait sur les jardins et sur la Seine. Il faisait clair de lune. Certaines fenêtres conservaient encore les petits vitraux plombés du temps des Médicis. Leurs verres grossiers, en cul de bouteille, laissaient transparaître une lumière verdâtre qui tachait le visage de la reine et me la montra soudain comme un fantôme en son vêtement blanc. Je me souviens que mes doigts tremblèrent et que les bougies que je tenais pleurèrent sur le parquet. « Vous avez peur, » me dit-elle. « Vous étiez plus brave tantôt. » Et elle daigna ajouter, « J'ai été témoin de votre courage et de votre fidélité. Je ne les oublierai jamais, si toutefois j'ai encore longtemps pour me souvenir. « Oh, madame, » m'écriai-je. Mais d'un geste doux et souverain, elle m'indiquait une porte. Je ne sais ce qu'il y a de ce côté-ci des appartements. Dans mes rares séjours à Paris, je n'ai jamais été si loin. Je jetai un coup d'œil par un des carreaux de vitre. Nous dominions la Seine et le vent faisait trembler, en les balançant, les grands arbres de la grève, mêlant leurs branches noires dans les rayons argentés de l'astre des nuits. « C'est, me dit la reine, que nous sommes à la porte qui fait communiquer le château avec la galerie du Louvre. » Un frisson involontaire me saisit. Il me semblait que derrière cette frêle planche aux moulures dorées et peintes par Coypel, tout le vieux mystère du Louvre tragique s'agitait. Je n'étais pas très savante en histoire de France, juste ce qu'on en apprend en même temps que sa généalogie, mais je me rappelais des récits terribles et des légendes sinistres. Ce palais, disait-on, était parcouru par des spectres étranges. Cependant, la reine me commandait d'ouvrir, et d'une main tremblante, je tournai le bouton de la serrure. Un coup de vent me frappa au visage et faillit éteindre mes bougies. Je les protégeais de la main en les élevant pour dissiper l'obscurité. Leur faible rayonnement faisait remuer des ombres que je jugeais effrayantes. Mais la reine éleva la voix. On aurait dû placer ici un factionnaire dont on fût sûr. Dieu sait jusqu'où ce corridor peut conduire. Car nous distinguions maintenant une longue galerie qui semblait s'étendre à l'infini. « Allons, » dit Marie-Antoinette, « il faut voir. » Comme José représentait à ma souveraine qu'il était nécessaire au moins d'appeler des gardes pour accompagner sa majesté, elle me fit signe de la suivre et s'avança la première. Cette partie du Louvre fut reliée aux Tuileries par les architectes de Louis XIV. Elle était alors, par suite de transformations essayées, puis renoncées, un désordre et un chaos. Nous errâmes dans un dédale de corridors coupés de marches et faisant sans détour, rencontrant parfois de brusques escaliers en vis, semblant descendre au centre de la terre, et qui s'arrêtaient devant des baies d'anciennes portes murées. Les voûtes sous lesquelles nous marchions étaient basses, gothiques, supportées par des bustes d'animaux à face de monstres. La reine murmura d'une voix basse, comme un souffle, « Nous sommes dans la partie qui n'a pas été touchée. C'est le vieux palais de Charles IX et d'Henri III. Ces pierres ont dû voir bien des événements. » À ce moment, nous entendîmes distinctement un bruit léger à quelques pas de nous. Nous nous trouvions au centre d'une sorte d'étoile où venaient aboutir des couloirs obscurs. Le sentiment naturel de ce que je devais à ma souveraine vainquit ma faiblesse et je m'élançai devant Marie-Antoinette en élevant en l'air mon bougeoir de vermeil. Une forme bizarre apparaissait, semblant descendre un à un les degrés taillés dans la pierre des murs. C'était une façon de petit homme vêtu de la manière qu'on représente les bourgeois du temps passé, avec des chausses à trousses, une casaque tailladée et coiffée d'un chaperon à oreillères et à queue pendante. Mes tremblantes mains dirigeaient la lumière de son côté et nous vîmes qu'il était tout habillé de rouge. Au cri que je ne pus retenir, cet être affreux, qui me parut avoir les traits d'un vieillard et la taille d'un enfant, leva la tête et, remontant brusquement d'un vif élan les degrés qu'il était en train de descendre, nous le vîmes s'élever tout d'un coup, comme s'il voulait donner de la tête contre la voûte et disparaître. Marie-Antoinette était immobile et pâle. José saisit sa main glacée. « Rentrons, me dit-elle. Rien d'humain ne nous menace en ces lieux. Sans doute que la Providence a voulu m'attirer jusqu'ici pour m'avertir par un signe des dangers qui menacent la monarchie. Votre Majesté pense donc que nous venons de voir le petit homme rouge, celui qui erre dans les détours du Louvre quand le roi de France est en péril. Je ne sais si notre croyance catholique nous permet d'ajouter foi à cette superstition. Mais comment douter du témoignage de nos yeux ? Nous rentrâmes, elle impassible, moi terrifié. Tout dormait dans le château. J'aidai la reine à se dévêtir sans ces étiquettes qui lui avaient tant pesé, et je l'entendis murmurer, comme à elle-même, « Je crains tout pour le roi. Quant à moi, je suis étrangère. Ils m'assassineront. Que deviendront nos pauvres enfants ?» La douleur de cette reine dans ce palais de désastre dépassait tout ce que les tragédies ont pu concevoir de terrible. Je suis la dernière servante de la monarchie qui ait vu, de mes yeux vus, le petit homme rouge du Louvre.